Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi, vendredi soir pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Ravili Lemel. Bonsoir Ravili Lemel et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
C'est Shabbat bien particulier où il commence à rentrer très tôt. Moi j'adore, c'est mes... Chacun, il y a deux écoles. Il y a celui qui veut que ça rentre tôt, celui qui veut que ça finisse tard. Moi j'adore quand ça rentre tôt. Et en plus de ça, on est dans les très belles parachutes parce que là on est dans toutes les parachutes de Bereshit. On arrive à l'Ech Lecha. L'Ech Lecha, c'est la très fameuse histoire qui nous raconte Abraham qui doit partir de chez lui avec cette fameuse expression « pars pour toi-même ». Et alors vous, Ravili Lemel, vous y avez vu comme une correspondance avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que donc voilà, Abraham part en fait vers la terre d'Israël, et aujourd'hui vous avez du mal à vous déconnecter de l'actualité, quoi. Aujourd'hui on nous demande, on veut nous chasser, partez, par tous les moyens, même les plus barbares, les plus sauvages. Et vous avez envie de faire le lien avec l'actualité, Ravili Lemel.
Alors oui, en effet, je ne sais pas que j'ai envie de faire le lien.
Mais c'est qu'on vous y force un peu.
Mais on va découvrir en tout cas quelque chose qui m'a interpellé. On voit que Hachem, donc Dieu s'adresse, la première parole d'ailleurs que Dieu adresse à Abraham, puisque Abraham, la semaine dernière, on a vu qu'il est né. Et puis maintenant, Dieu lui parle et lui dit « Lech Lecha, va pour toi et quitte le lieu dans lequel tu te trouves vers cette terre que je t'indiquerai ». Et donc, moi, je voudrais d'abord m'arrêter sur les termes qui sont utilisés ici. L'ech par locha pour toi. Ce sont deux mots, et de manière intéressante, ils sont constitués des deux mêmes lettres, des deux mêmes consonnes. Les voyelles ne sont pas les mêmes, les consonnes sont identiques, et chacun de ces deux mots a une valeur numérique, qui est la valeur numérique de 50. Or, 50, c'est une lettre, c'est la lettre Noun. La lettre Noun, vous savez, c'est une des deux lettres de la Torah qui est seule. Pourquoi ? Parce que dans les lettres, qui sont les unités, donc les lettres de Aleph à Tête, eh bien vous pouvez lier la première à la dernière, le Aleph et le Tête, le 1 et le 9, le Bet et le Chet, la seconde avec la huitième, la troisième avec la septième, la quatrième avec la sixième, donc, et chaque fois ça nous fait 10. Et puis on a au centre une lettre qui est toute seule, qui est la lettre He. Idem au niveau des lettres qui ont des valeurs numériques dans les dizaines, la lettre qui vaut 10, avec la lettre qui vaut 90, 20, 80, 70, 30, 60, 40. Et puis la lettre qui est au centre, c'est la lettre Noun. Et cette lettre Noun, eh bien, elle a comme valeur numérique 50, c'est la lettre seule. Et vous savez qu'avec ces deux lettres, on forme un mot qui est le mot Hen. Hen, voici. Et ce mot-là, on le retrouve de manière très curieuse dans une paracha dans laquelle Bilham, le prophète des nations, qui voulait maudire, mais qui ne va pas maudire, mais qui veut au contraire bénir, va dire au peuple d'Israël, je vais vous dire qui vous êtes. Et il va leur dire « Hen am levadad iskon ». Le voici ce peuple, solitaire, il est installé. Et donc là-bas, on a ce terme de « hen », le voici, qui au passage aurait pu être… On aurait pu utiliser un autre terme pour les distingués hébraïsants qui nous écoutent. On aurait pu dire « amze », ce peuple-là, non « hen ». Hen, le voici, c'est-à-dire ce mot constitué de ces deux lettres, une qui vaut 5 et une qui vaut 50, et qui nous renvoie à la dimension de cette solitude. Mais de quel type de solitude au fond ? Être capable de se tenir debout seul, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin d'être validé par les autres nations. Et c'est intéressant parce que c'est ce que Bilham va dire, le badad, vous êtes seul. Le terme de badad, d'ailleurs, c'est intéressant, vous savez, on le retrouve dans un autre texte, lorsqu'on parle du Metzora, c'est-à-dire de cette personne qui aurait fait de la médisance, et on le sort du camp pendant un certain temps, ce personnage, et on nous dit là-bas aussi « badad yeshev », solitaire, seul, il devrait être installé. Pourquoi ? Parce qu'au fond, le Metzora, c'est qui ? C'est quelqu'un qui a dit de la médisance. Mais pourquoi on fait de la médisance ? La plupart du temps, on fait de la médisance pour se faire exister sur le dos de l'autre. Si je dénonce le dysfonctionnement de l'autre, c'est que je ne suis pas concerné. Si je fais tomber l'autre par terre, alors j'ai l'impression que je suis plus grand. Au fond, le médisant, c'est quelqu'un qui n'existe pas. Quelqu'un qui existe réellement n'a pas besoin de médire les autres parce qu'il existe Le médisant, c'est celui qui a besoin d'un public, qui a besoin d'un univers autour de lui, qui entend sa parole, parce que sinon, ben, il la prononce, mais s'il n'y a pas de personne qui l'écoute, ben, ça ne sert à rien. Et on lui dit justement, tu vas devoir maintenant te retrouver seul, c'est-à-dire comprendre qu'une identité ne se crée pas dans le rapport à la parole de l'autre, c'est-à-dire dans le besoin d'être validé par l'autre, d'être entendu par l'autre, mais à travers ta conviction profonde qui t'habite. Et c'est intéressant de voir que justement, le début de l'histoire d'Abraham, tel que la Torah nous le décrit, c'est l'Ech Lecha. Tu as quitté un lieu. Parce qu'au fond, Abraham, en quittant ce lieu, a priori perd ses chances de pouvoir répandre la parole divine dans le monde, parce que le lieu, il le connaît, il a grandi, il est là-bas. Il sait comment ça fonctionne. Et Dieu lui dit, ben non, justement, pour pouvoir par la suite transmettre à l'humanité, pour pouvoir par la suite incarner ce message, il faut d'abord que tu sois dans ce mouvement, l'air, l'aura, avec cette idée que l'on trouve de manière allusive dans cette valeur numérique de ces deux mots, qui est dans un état de solitude. Et on va voir d'ailleurs de manière très intéressante, à la fin de la paracha, quand Dieu va demander à Abraham de faire la circoncision. Vous savez que quand Dieu demande à Abraham de faire la circoncision, Abraham va hésiter. Alors, il ne va pas hésiter parce qu'il a peur, loin s'en faut. Non, non, Abraham, en tout cas, il va avoir une forme de questionnement. Il va dire à Dieu, mais oui, mais faire la circoncision, c'est peut-être pas très attractif pour celles, pour ceux en tout cas, qui vont vouloir à un moment adhérer à mon message. Parce que si on entend qu'adhérer au message d'Abraham, c'est un moment faire la circoncision, ça risque peut-être de repousser certaines personnes. Mais Abraham, évidemment, va le faire. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est quoi ? C'est que tout de suite, après avoir fait la circoncision, c'est à ce moment-là où Dieu lui dit « Tu n'auras plus le même nom. Tu t'appelais jusqu'à présent Abraham, et maintenant tu vas t'appeler Abraham. Pourquoi ? Qui av hamon goyim ne t'attira ? Car j'ai fait de toi le père d'une multitude de peuples. » C'est-à-dire que justement, alors que tu fais cet acte, donc tu penses qu'il va augmenter ta solitude parce qu'il va te faire de toi un être qui va être totalement différent, c'est là où justement est le début d'une histoire dans laquelle tu pourras propager ton message. Pourquoi ? Parce qu'au fond, dans la mesure où tu es ancré dans ton histoire, dans la mesure où tu n'attends pas sans arrêt d'être validé par les autres, donc tu n'es pas ce que j'appellerais une forme de caméléon intellectuel ou social, tu ne cherches pas à plaire, tu ne cherches pas de manière désespérée, est-ce que les autres valident ou non mon message, est-ce que les autres sont d'accord avec moi ? C'est là où véritablement tu auras un impact. Parce que quand vous dépendez des autres, lorsque vous remettez les clés de votre identité dans les mains des autres, eh bien, quelque part, votre message, à un moment, change, s'édulcore, se transforme, parce qu'on a toujours besoin de leur assentiment. Et si on a besoin de leur assentiment pour exister, eh bien, on fonctionnera comme ils le désirent, eux. Et pour moi, en tout cas, c'est un petit peu ici un message que je trouve extrêmement fort et bouleversant que l'on retrouve au tout début de cette paracha. C'est-à-dire d'un Abraham qui est là et qui est en train de dire, vous savez, le point de départ de l'histoire du peuple d'Israël, c'est d'abord s'ancrer à l'intérieur de sa croyance, s'ancrer à l'intérieur des certitudes que l'on nourrit à travers l'étude de la Torah. Ne pas être sans arrêt dans un regard à droite et à gauche pour savoir ce que pensent les autres de nous. Ne pas être sans arrêt dans cet appel de leur validation. Et à partir de là, tu commences ton histoire. Ce qui est intéressant en même temps, c'est que cet ancrage n'est pas du tout le lieu de la rupture avec l'univers, loin s'en faut, puisque Abraham, c'est celui qui justement va chercher d'abord à transmettre, mais non pas juste à travers le verbe, mais à travers son modèle de fonctionnement. Et c'est qui Abraham ? C'est celui qui veut être dans la bonté, dans l'altérité, dans celui qui se tourne vers tous les autres pour leur dire « J'ai envie de vous faire découvrir quelque chose, vous en ferez ce que vous voulez. » Mais ça me bouleverse de voir quelqu'un qui risque de passer peut-être un petit peu à côté de son histoire parce qu'un des éléments qui lui aurait permis de donner un sens à sa vie n'est pas présent. Et c'est intéressant de voir que dans la prière tous les jours, on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et on termine, béni sois-tu Dieu, Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, bouclier d'Abraham. Et la question se pose, pourquoi on ne dit pas bouclier d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ? Parce qu'au fond, Abraham représente justement cette dimension du don, de l'altérité. Et ce don, cette altérité, dans un monde dans lequel le retour n'est pas nécessairement présent, dans un monde dans lequel justement le peuple d'Israël qui veut donner à l'univers son savoir, sa connaissance, son expérience, eh bien, les retours n'étant pas toujours si présents, on risque à un moment de mettre de côté cette dimension, mais qui est au fond une des caractéristiques fondamentales du peuple juif. C'est pour ça que tous les jours on dit « Baruch atah Hashem Magen Avraham »« Béni sois-tu Dieu, bouclier d'Abraham », c'est-à-dire qui nous protège et qui nous permet de rester les descendants d'Abraham dans une société qui ne fonctionne peut-être plus suivant ses fondamentaux. Donc on a ici deux notions fondamentales. La première, c'est s'inscrire en profondeur à l'intérieur d'une identité sans être à la recherche des validations de l'extérieur. Être capable justement d'être dans ce lech lecha et de savoir que c'est de cette manière-là qu'on va réussir réellement à apporter à l'univers ce que la Torah propose. Seconde chose, dans un monde dans lequel fonctionner suivant les principes d'Abraham, eh bien, ne nous amène pas nécessairement de retour, tous les jours on dit à Dieu, aide-nous à continuer à être justement dans cette vision qu'Abraham a de la responsabilité de l'individu dans l'univers, même si celui-ci, pour l'instant en tout cas, ne fonctionne pas nécessairement complètement de cette manière. Voilà en tout cas quelques idées que j'avais envie de partager avec vous et qui évidemment résonnent peut-être un petit peu plus dans les situations que le peuple d'Israël vit actuellement.
Rav Eli Lemel, essayons de rester et dans l'altérité, si j'ai bien compris ce que vous nous dites, comme Abraham, et de ne pas avoir besoin de l'autre pour être soi-même et pour exister. Et pensons-y, on va rappeler, comme on l'avait dit, vous me donnez votre certificat que... Je fais sous votre contrôle et vous me dites que vous êtes d'accord. On avait dit la semaine passée, ceux qui n'allument pas les bougies, les allument. Ceux qui ont l'habitude essayent d'être tout simplement avec un petit peu plus de ferveur. Et on essaye de créer du lien avant Shabbat, s'il reste encore un petit peu de temps là. Téléphoner plus particulièrement à ceux qui sont en Israël. J'ai votre validation.
Exact. Exact. Et puis aussi, si vous êtes dans des lieux dans lesquels vous avez des voisins qui appartiennent à la communauté que vous connaissez peut-être pas, montez leur offrir une petite challah, une petite douceur pour Shabbat, ça renforce le lien. Et surtout, surtout, quand on va à la synagogue, essayons surtout de prier et de faire les commentaires sur l'actualité. Une fois que la prière est terminée, c'est, je pense, un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont sur place.
Voilà, Rav Eli Lemel disait la semaine passée. C'est notre silence qui est la réponse à ce que nous vivons actuellement. C'est notre manière à nous de, pendant la prière, évidemment, la lecture, la Torah, etc.
Vous avez totalement raison. Le silence qui régnera dans nos synagogues, eh bien, sera peut-être, et on l'espère très fort, celui qui amènera le silence des armes. Ce sera Tachem.
Rav Eli Lemel, je vous remercie. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai.
Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Que Hachem protège son peuple. Et je vais vous dire même mieux que ça, toute l'humanité de la barbarie et du terrorisme islamiste.
Et plus particulièrement Jérusalem où vous vous trouvez.
Absolument.
Rav Mordechai Biton. Alors vous voulez lier notre paracha de ce soir à un événement qui a démarré cette semaine, jeudi, mercredi, et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, puisque ça dure plusieurs jours, c'est la Hiloula de Rachel Imenu. Alors, Rachel Imenu, c'est la femme de Yaakov, Rachel Imenu a été enterrée sur le bord de la route. On peut d'ailleurs, jusqu'à ce jour, les Juifs s'y rendent et y prient. Et Avraham, lui, on lui a demandé de prendre la route. Alors c'est intéressant, parce qu'elle donc elle est sur le chemin, et notre paracha, l'Ech Lecha, nous parle d'Avraham qui doit se mettre en chemin, se mettre en mouvement, se mettre en route, et alors vous y voyez un lien, et c'est de ça que vous avez envie de nous parler ce soir.
Absolument, parce qu'il y a, y a ici un lien qui est un lien intrinsèquement lié au destin du peuple juif, c'est au niveau collectif, au niveau individuel. Alors j'explique de quoi il s'agit. La paracha nous dit ici que Avraham Avinu, Hachem lui ordonne de se mettre en mouvement. Lech lecha, tu pars vers une terre que je t'indiquerai. Donc au moment où il se met en chemin, il faut savoir que Avraham Avinu a déjà quitté avec son père, avec Terach, il a déjà quitté sa ville d'origine. Et là, il est installé du côté de Haran. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit, maintenant tu quittes ton père, tu quittes tout, tu te mets en mouvement. Je te dirai vers où aller. Et donc, quand Avraham Avinu se met en mouvement, il ne sait pas encore vers où Hachem lui demande d'aller. Il sait simplement qu'Hachem lui donne l'ordre de quitter quelque chose. Quitter son père, c'était référence paternelle. Terach, c'était le Ikea des idoles. Hein. C'était le conseiller de Nimrod. Nimrod voulant dire Bored, le rebelle, le premier roi rebelle à Hachem. Tu vas quitter donc ton père, tu vas quitter des références, tu vas quitter ta famille, tu vas quitter des références qui sont à la fois culturelles, psychiques, mentales. Tu vas aller vers autre chose. Donc, il se met en mouvement. Rachel, elle a été enterrée « al-em aderech », on dit en hébreu, c'est-à-dire sur le chemin. Et Yaakov a dû s'expliquer de ça auprès de Yosef. Yosef l'a demandé « pourquoi ma mère n'a pas été enterrée là-bas, dans le Kever, dans la tombe où sont enterrés tous les patriarches et toutes les matriarches ?» Et donc, Yaakov va dire « c'est la Shrina, c'est la présence divine qui m'a montré que c'est là qu'elle devait être. Pourquoi ?» Parce que quand les Bnei Israël seront en chemin de l'exil, c'est-à-dire que là aussi on les retrouve cette thématique, ils seront cette fois-ci perdus sur le chemin de l'exil, Rachel, le mérite de Rachel, et Rachel là-haut dans les cieux, près d'Hachem, elle va se lever, elle va prier pour que ses enfants reviennent à la maison. Et donc ce qu'il faut explorer ici, c'est finalement cette thématique, je voudrais la relier à l'actualité. À l'heure où je vous parle, personne ne sait, comme on dit en hébreu, « maï elidium », personne ne sait ce qui va se passer demain. Et je vous garantis, pas même Netanyahou et pas même l'état-major. Tout le monde a des plans, tout le monde pense à des plans, bien entendu, parce que c'est le travail des militaires et des politiques d'avoir des plans, les diplomates également, des présidents, toutes sortes de gens ont des plans d'action, mais en fait, au fond, personne ne sait réellement vers où aller, et on est à la croisée des chemins. Alors, il y a deux thématiques qui sont intéressantes ici, quand on est dans cet état. Il y a une problématique qui est la problématique de Avraham Avinu et la problématique de Rachel Humeno. La problématique d'Avraham Avinu est la suivante. Quand Hachem lui dit « tu vas te mettre dans l'incertitude du chemin », eh bien, sache qu'en vérité, moi, je suis avec toi. C'est-à-dire que tu n'es pas paumé, tu n'es pas perdu. C'est moi qui t'emmène. Lorsque le juif semble cheminer dans l'histoire, sans savoir réellement où les événements l'emmènent, en fait, Hachem est avec lui. « Imo ani betzara », je suis avec lui dans le malheur, mais je suis aussi avec lui dans toutes les occasions. Il est entre les mains d'Hachem. Et donc, dans cette incertitude géographique, le juif construit la certitude de la foi, de la émouna. Il est avec Hachem. Hachem lui a donné un ordre. Hachem nous a demandé de cheminer dans l'histoire, de recevoir la Torah, d'avancer avec sa Torah, d'avancer avec sa pensée, avec ses références. Et donc, dans l'incertitude géographique, le juif construit la certitude de la émouna. Hachem est avec moi. Et qu'est-ce qui se passe avec Rachel? Quand les Juifs, cette fois-ci, partent vers l'incertitude de l'exil, Rachel, elle pleure pour qu'ils reviennent. Mais ils sont en exil, Hachem les condamne à l'exil. Qu'est-ce que c'est l'exil? L'exil, c'est l'absence de la Shrina, c'est l'absence de la présence divine, et c'est une espèce de perdition au niveau intellectuel, au niveau moral, au niveau spirituel. Et là, Rachel, elle constitue une référence. Elle vient, elle dit, regardez, pourquoi est-ce qu'on part en exil? En général, c'est à cause de la haine gratuite. Vous regardez bien toute l'histoire. L'exil en Égypte, c'est parce que Yosef a été vendu par ses frères, c'est la haine gratuite. À l'époque de la destruction du premier temple, les prophètes sont admonestés à Israël sur les fautes qui conduisaient au Ben Adam Lachavero. D'accord ? Le déluge a été signé sur le Hamas, c'est-à-dire sur le vol avec violence, la relation avec l'autre. Et aujourd'hui en exil, pour la relation avec l'autre. Mais qu'est-ce qu'elle dit, Rachel ? Elle dit, mais si vous voulez affirmer que vous avez de la Emouna, vous devez être capable d'aimer inconditionnellement. Voilà, moi j'ai tout donné à ma sœur, j'ai tout perdu. Au moment où j'ai donné à ma sœur les signes pour qu'elle ne soit pas humiliée devant Yaakov, j'ai tout perdu. J'ai été mévater. Je ne me suis pas regardé moi, j'ai regardé l'autre. Et on a ici une clé. C'est quoi la clé qui nous permet de sortir de l'exil? La relation avec Hachem, bien entendu. La tchouva, bien entendu, comme dit le Rambam. Am Israël n'est sauvé que par la tchouva. Mais c'est quoi la clé? De manière que la clé qui ouvre la porte de l'exil, c'est la haine gratuite. De la même manière, la clé qui ouvre la porte de la délivrance, c'est l'amour gratuit, c'est le vitour, c'est le don. Et donc, quand le juif est en chemin perdu, il doit se rappeler d'une chose. Et c'est ce que Hachem a fait ici. Hachem, ici, nous a mis à tous une gifle monumentale. Mais il l'a mis à tout le monde, cette gifle. À la gauche, à la droite, aux religieux, aux non-religieux, au centre, au-dessus, en dessous, partout. Tout le monde s'est pris. Hachem, il a dit à tous, mais arrêtez! Vous êtes tous mes enfants. Réunissez-vous. Et là, à l'heure où je vous parle, près de 250 000 soldats qui sont sur le front des Talits Katan. Il y a une atmosphère de hardoute et d'unité qui est absolument incroyable. Et les gens prient, et les gens se tournent vers Hachem, et les gens se tournent les uns vers les autres. Alors voilà, on est à la fois sur l'exil, on n'a pas terminé l'exil, en même temps on est sur le chemin du retour, parce qu'on comprend ce que Rachel a compris, c'était le vitour, cette capacité à regarder l'autre, et en même temps on a la foi, on a la Emouna, on a Avraham Avinu, et donc on est là et on est armé. Voilà, donc je pense que maintenant on peut vraiment tous prier, comme dit le Yanouka, ce Kadosh Elyon qui vit parmi nous aujourd'hui. On peut vraiment demander, évidemment, la victoire de nos soldats, évidemment que nos ennemis soient anéantis, ils marchent même vers Bezicha, mais avant toute chose, la Geoula Shlema, la délivrance complète. Voilà ce pourquoi on peut prier. Je l'ai dit plusieurs fois sur cette antenne, et je vous le redis maintenant, et je crois que je le redirai prête à chaque émission. Cet fameux enseignement du Rabbi Lubavitch sur les Juifs de Kippour. Il dit, le Juif de Kippour, il enlève son masque à Kippour, il vient, il a son vrai visage. Mais aujourd'hui, là, c'est le vrai visage de Israël qui apparaît. C'est le vrai visage d'Israël, c'est celui-là. Il faut que nos ennemis le sachent, et il faut que celles et ceux qui nous écoutent le sachent, et il faut que tous ceux qui nous écoutent le sachent. C'est le vrai visage d'Israël qui apparaît aujourd'hui. Ce qu'on appelle en hébreu des chilouk et des hot, c'est-à-dire des différences d'appréciation, etc., c'est normal. Mais là, ici, ce qui est en train de se jouer, c'est ce que nos ennemis ont réussi à faire, et que j'espère on arrivera à perpétuer après cette guerre, eh ben, c'est qu'ils ont réussi à nous montrer à quel point les différents visages d'Israël ne sont que l'expression démultipliée de l'unité originelle, l'unité qu'on a eue le jour où on a reçu la Torah. Parce que le peuple juif n'est pas une réalité politique. Il n'est pas né il y a 75 ans avec l'État d'Israël, il n'est pas né en 1897 avec le grand sioniste de Bâle, il est né il y a 3300 ans quand il a reçu la Torah au Piémont Sinaï, et là-bas il est écrit « Vayichanaam, le peuple a campé ». Et Rashi dit « Belev echad yeshechad », avec un seul cœur. Alors vous voyez, c'est là. Voilà, elle est là, la délivrance. Alors je souhaite à toutes et à tous... Shabbat Shalom, et que chacun prie pour la Geoula Shlema. On ne veut pas que la victoire sur nos ennemis, on ne veut pas que la victoire de nos soldats. On veut la Geoula Shlema. On veut l'unité totale et la rédemption totale. N'en déplaise à certains cyniques que j'entends sur les plateaux de télévision qui disent « Ah, aujourd'hui les Juifs sont pris en main par des messianistes. » Mais mes chers amis, prenez le sidour de vos grands-pères, parce que ce sont des Juifs qui parlent comme ça. Prenez le sidour de prière de vos grands-pères, de vos grands-pères. Ils ont tous prié dans les 19 bénédictions de l'Amida pour la reconstruction de Jérusalem et pour le Mashiach. Alors si vous l'avez oublié, vos arrière-grands-pères ne l'avaient pas oublié. Voilà ce qu'on se souhaite à toutes et à tous. Shabbat Shalom.
Vraiment des habitants, Shabbat Shalom. Et on profite à cette occasion, comme on le dit à chaque émission, de joindre le geste à la parole. Ceux qui n'avaient pas l'habitude d'allumer les bougies, allument les bougies ce soir, parce que c'est toujours un beau geste, ça met toujours une bonne ambiance dans la maison. Ceux qui n'avaient pas forcément l'idée de donner un coup de fil à quelqu'un de cher, à quelqu'un d'éloigné, le font singulièrement, particulièrement si celui-ci se trouve en Israël. Rav Mordechai Biton, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gueh. Bonsoir Rav Gueh, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Gueh, alors vous aussi, vous avez décidé de lier votre dracha de ce soir avec l'actualité. Alors je ne sais pas si ce sera de manière explicite ou pas. Je ne sais pas si ce n'est pas moi en plus qui interprète un peu. Parce que moi je suis journaliste, alors évidemment, c'est tout de suite, j'ai les signaux qui s'allument dans ma tête. Puisque vous allez nous parler de la différence entre Israël et Ishmaël. Et alors, il se trouve... que Israël, évidemment, c'est Yaakov, hein. Enfin, au cours de l'histoire, il change de nom. D'ailleurs, c'est intéressant, il garde les deux, il s'appelle Yaakov et Israël. Toujours est-il que, bon, moi, j'y vois évidemment une allusion à l'actualité, le différent entre Ishmaël et Israël. Wow. De quoi est-ce que vous voulez nous parler ce soir, Rav Gueh ?
Tout simplement, on se rappelle un petit peu d'un fait historique très important, puisqu'on sait que Ishmaël est le fils de Hagar. Alors, Hagar, on se rappelle, c'est la servante de Sarah, et elle est servante de Sarah depuis quel moment ? Depuis le moment où, en fait, Abraham et Sarah se trouvaient en Égypte. Pharaon a pris Sarah, enfin, elle s'appelait Sarai à l'époque, et il l'a pris parce qu'il voudrait en faire sa femme. Il est très attiré par sa beauté. Mais finalement, Dieu intervient et donc il libère Sarai, apprenant qu'elle est mariée. Et il est très impressionné par Abraham et Sarai. Vraiment très impressionné à tel point que leur propre fille, la fille de Pharaon, qui s'appelle Hagar, elle accepte d'être servante, d'être esclave même, hein, dans la maison d'Abraham et de Sarai, plutôt que d'être princesse. Ce qui montre quand même un très haut niveau de, on va dire, d'attirance, d'attachement aux choses spirituelles. Elle est prête à laisser derrière elle le confort et le bien-être d'une princesse pour être une esclave dans la maison d'Abraham et de Sarai.
Dans la tente.
Oui, en plus. Bref, c'est pas facile. Et en plus, bon, là arrive maintenant une deuxième phase. Sarai n'a pas d'enfant, elle n'arrive pas à concevoir. Donc elle demande à son mari de se marier avec Agar, c'est-à-dire de se marier avec Agar et d'avoir un enfant qu'elle va élever elle et qu'elle va considérer un petit peu comme son enfant. Bon, il y a plusieurs explications pour cette demande, mais ce qui est sûr, c'est que c'est Sarai qui le demande. Elle demande à Abraham de se marier avec Agar, ça vient d'elle, ça vient pas d'Abraham. Et puis, lorsque Agar se rend compte qu'elle a conçu, qu'elle est enceinte, tout de suite, eh bien, elle est très fière, elle devient un peu arrogante. Et à ce moment-là, Sarai va la faire souffrir en lui rappelant « Tu es servante, tu n'es pas... » Alors justement, là commence, dit le Rachaim HaKadosh, Rachaim Ben Attar, un problème très profond, très, très délicat même, entre Abraham et Sarai. Sarai soupçonne Abraham d'avoir laissé comprendre à Hagar, d'avoir fait comprendre à Hagar qu'elle était sa femme à tout point de vue. C'est-à-dire que c'était vraiment sa femme, qu'elle avait cessé d'être la servante de Sarai. Alors, le Rabbi Ben Attar rentre dans une analyse talmudique un peu complexe que je ne veux pas rapporter dans les détails ici. Mais ce qui en sort, c'est que, parce qu'il y a une, on va dire, ambiguïté, est-ce que Abraham en a fait sa femme à 100%, légitime, etc., ou bien elle a gardé son statut de servante et d'esclave. Alors Hagar, évidemment, elle a compris qu'elle était devenue la femme légitime d'Abraham et qu'elle était sortie de ce statut d'esclave et de servante. Et donc c'est pour ça qu'elle a, envers Sarai, une autre attitude. C'est plus sa maîtresse. Mais ce n'était pas l'intention de Sarai, c'est sûr, et sûrement pas celle d'Abraham, d'en faire une femme légitime, mais de la garder comme esclave et servante. Et donc de là, en découle un problème très, très profond, c'est qu'à partir du moment où Ishmaël va naître de ce couple Avram et Agar, il va se passer en vérité un problème. C'est est-ce que Ishmaël, c'est le fils aîné d'Abraham, et à ce titre, pourrait-il même avoir des prérogatives et des droits plus importants que Yitzhak, qui est le deuxième? Ou bien, en fait, Ishmaël, c'est le fils de la servante, de l'esclave, donc à l'époque il y avait l'esclavage, ils avaient un statut bien particulier, donc il n'a pas du tout de prérogative. Il est l'esclave de Sarai, donc il est le fils de l'esclave, donc il est un esclave lui-même, il n'a pas du tout de droit comme Yitzhak. Yitzhak, c'est le premier fils légitime d'Abraham. Donc oui, c'est pas évident de. Et depuis toujours, Ishmaël revendique une place, une première place dans le cœur d'Abraham et de Sarai, finalement une première place dans le cœur d'Abraham et dans son statut, un statut de premier-né. Ils vont même des fois jusqu'à dire que la Akedat Yitzhak, on appelle ça la Akedat Yitzhak, eux ils disent Akedat Ishmaël. Il y a un vrai problème qui se met en place. Mais il faut reconnaître que selon Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, on reproche à Abraham et Sarai d'avoir un peu trop, humilié Hagar, de ne pas l'avoir suffisamment respecté. C'est assez étonnant hein, de voir un des rishonim, Rabbi Moshe ben Nachman, qui ose écrire ce chose-là. Et il dit une phrase terrible, il dit « Parce que Abraham et Sarai n'ont pas traité Hagar comme ils auraient dû la traiter, qu'ils l'ont un petit peu, ils l'ont un peu humilié, rabaissé, eh bien les enfants de Hagar se vengeront des fils d'Abraham et de Sarah, donc les descendants de Yitzhak et de Yaakov, donc les bénis Israël, les enfants d'Israël, à la fin des temps, ils se vengeront et ils voudront justement eux-mêmes humilier et rabaisser les descendants d'Abraham et Yitzhak. Genre, en revanche, en vengeance, une vengeance parce que Agar a été maltraité. Incroyable, c'est-à-dire que ici, en étudiant le Rav Chaim Ben Attar et Rabbi Moshe Ben Nachman, le Ramban, on voit une analyse de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que Ishmael ne revendique un certain statut. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin des temps, il est dit que Ishmael lui-même a fait tshuva, Ishmael, le fameux Ishmael a fait tshuva, il a fait un acte de repentir. Comment on le voit? Parce qu'au moment de l'enterrement d'Abraham, on voit qu'on dit d'abord Yitzhak et ensuite Ishmael, lorsqu'ils ont suivi évidemment son cercueil, ils ont assisté évidemment à son enterrement, eh bien Yitzhak est cité avant Ishmael, alors que Yitzhak, il est plus jeune que Ishmael. Et donc c'est une preuve, disent nos sages, que Ishmael à ce moment-là accepte d'être en deuxième position et de mettre Yitzhak en avant. Et donc on voit qu'il a fait Teshuvah vers la fin de sa vie. Mais avant cela, il est celui qui lance des flèches, et nos sages nous disent qu'à un moment, Ishmael a voulu tuer Yitzhak. Comment il l'a fait? En lançant des flèches, faisant semblant de jouer ou de vouloir viser ailleurs. Et Sarah a vu ça, elle a eu peur pour son fils, et elle a dû, donc elle a demandé à Abraham de chasser Ishmael parce qu'il était un danger pour Yitzhak. Et intéressant de voir que le métier de Ishmael, c'est Rové Kachat, c'est-à-dire celui qui lance des flèches, c'est un archer, et aujourd'hui, on subit des flèches d'un autre style, ça s'appelle des missiles, et des katyushots, toutes sortes d'objets extrêmement dangereux, mais qui sont envoyés de loin par Ishmael pour nous atteindre. Et donc toujours une attaque à distance, dont il faut se protéger parce qu'il veut tout simplement revendiquer une chose très importante pour lui, c'est que lui, il est le fils d'Abraham, et donc en tant que descendant d'Abraham légitime et peut-être le premier d'après lui, il a un droit sur la terre d'Israël. Il a un droit sur la terre d'Israël qui est l'héritage d'Abraham. Et en plus, il a la Brit Mila, nos sages nous disent que comme il a la Brit Mila, il a en plus un droit sur Israël, mais qui est limité dans le temps, et qui est limité tout court. Et donc c'est ça qui fait, qui est à l'origine, selon nos sages, du Zohar Kadosh, qui parle de cette Brit Mila qui donne un droit sur Israël, eh bien, il fait partie donc de ceux qui ont un droit, mais qui finalement ont usé, peut-être abusé de ce droit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le droit final, c'est Israël, mais Ishmael a aussi une achriza, c'est-à-dire il a la possibilité de saisir, d'avoir un droit, un petit droit momentané sur Israël. Et donc c'est un peu ça, cette ambiguïté sur le statut de Hagar, sur le statut de Ishmael, sur le fait que Hagar a été peut-être maltraitée, etc. Elle reste quand même Hagar une personnalité dans l'histoire juive qui a des qualités. Elle est prête à quitter le palais confortable et douillet de son père Pharaon pour aller être esclave chez Abraham et Sarah. Comme c'est assez extraordinaire. Elle voit des anges qui lui annonce la naissance d'Ishmael. Et Ishmael, il a un kavod, quelque chose qui est fait pour Ishmael, qui est absolument extraordinaire. La fin d'un paracha, on fait une bénédiction pour Ishmael qui est incroyable. Je vais le multiplier, le faire grandir énormément, énormément. Donc il y a une véritable bénédiction donnée par Dieu à Abraham en concernant son fils Ishmael, en disant Ishmael va être très très nombreux et c'est la demande d'Abraham, hein, cette bracha. Donc finalement aujourd'hui se passent des choses sur lesquelles il faudrait réfléchir, que tant d'anges se déplacent pour parler de la naissance de Ishmael, ça doit aussi nous faire réfléchir. Mais ce qui est important, c'est de savoir que avec Ishmael, il y aurait en tout cas prévu une teshuva possible, une sorte d'entente possible, parce que à la fin il fait teshuva. Et après il comprend que Yaakov, que Israël, que le Bnei Israël, les enfants d'Israël, donc le peuple juif, a quand même une priorité et qu'il va falloir un moment accepter cela. Mais c'est pas facile, c'est même très compliqué pour eux de l'accepter. Et donc il y a un problème de fond, je pense que c'est pas qu'un problème territorial ou de... C'est un problème de fond ancien, de place dans la famille qui est ici posée. Donc en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est évidemment comprendre le fond du conflit. Ce n'est pas qu'un problème de territoire, c'est un problème que le peuple juif retourne en Israël, retrouve, ça voudrait peut-être reconstruire selon eux le troisième temple, et donc ainsi retrouver sa place du fils aimé et le premier fils d'Abraham, et donc le peuple élu, et donc à ce moment-là, remettre en question tout le sur quoi l'islam est fondé. Et donc ça, c'est quelque chose de très difficile à accepter pour des gens, pour l'islam, d'une façon générale. Évidemment, après, ça donne lieu à des fanatismes complètement fous qu'on a vus. Mais en vérité, l'islam en général, je parle des gens intelligents et sensés et qui sont équilibrés dans chez les musulmans, ils ont aussi un problème de fond avec nous. C'est pas, ils sont pas violents, Baruch Hashem, il n'y a que de, il y a un petit, une minorité qui l'est, mais la grande majorité aussi a un problème avec le peuple juif, parce qu'il doit comprendre vraiment quelle est la place du peuple juif, quelle est sa place, déjà au niveau historique et au niveau même de l'avenir, du projet des années à venir, quelle est véritablement la place du peuple juif en Israël et quelle est la place du peuple juif en général dans le monde. C'est un petit peu un élément très important. J'invite tout le monde à étudier sur Chaim HaKadosh dans l'Ech Lecha, donc sur les psukim où Avraham et Sarah se disputent un peu. On peut dire une petite dispute qui est entre eux, entre guillemets, et Avraham accepte tout de suite ce que Sarah lui demande. Il dit bon d'accord, c'est bien de la servante, elle restera la servante. Et voilà, c'est ce qui. Mais c'est un long Rachaim Anatav, un long Rachaim qui mérite une étude approfondie, et beaucoup plus approfondie que celle que je peux faire dans ce cadre-là.
Eh bien, Rav Gay, j'avais vu moi une fois un cours où on disait, mais c'est un vrai couple, Sarah et Avraham, parce qu'ils se disputent. Ils se disent les choses, ils ne sont pas d'accord, ils discutent. Et la Torah, évidemment, toujours nous montre nos patriarches, évidemment, jamais comme des gens qui ne sont pas dans la réalité. On continue avec votre permission, Rav Gay, pour clore notre émission avec les deux belles idées qu'on a eues la semaine passée. Ceux qui n'ont pas coutume d'allumer des bougies ce soir prennent sur eux, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, c'est notre proposition, notre envie de mettre un peu de bracha dans tout ça parce que c'est pas facile. Allume les bougies parce que c'est pas lié à Shabbat. On dit pas, mais non, mais moi je suis pas très religieux. Non, on allume les bougies ce soir avec bracha et évidemment avant Shabbat, sinon ça sert à rien. On ne fait pas une avéra pour. Comme ça, c'est pas. Mais voilà, ne pas croire que. On ne peut pas le faire. On avait dit ça et on avait dit on essaye de créer du lien, notamment avec ceux qui sont là-bas, même si on n'a pas l'habitude de les appeler, on les appelle. Vous êtes d'accord avec mon idée, Rav ?
On est évidemment totalement d'accord. En rappelant que, effectivement, même si on ne peut pas faire Shabbat à 100%, tout ce qu'on peut faire pour le Shabbat, c'est déjà quelque chose de gagné. C'est un gain. Même si on. Donc, on a parlé d'allumer les bougies de Shabbat, c'est très bien. Je crois que l'heure de l'allumage, c'est 18h21 aujourd'hui. Et également, si on peut faire réduire son... On fume moins, on fume pas, on fait un effort. En deux mots, on fait un effort pour respecter le Shabbat. Même un petit effort, c'est très important.
Magnifique. Et les bougies mettent une atmosphère de bracha dans la maison, et c'est donc super important. Rav Gay, je vous remercie, et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Et je vous retrouve à 18h pour un journal qui est enregistré.